Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 5 maart. Ook vandaag willen we stilstaan bij de heilige Jozef en we gaan luisteren naar het vervolg van het interessant gesprek dat Nelly heeft gehad enkele jaren geleden in het programma De Kerk Leeft met Frère Dominique Joseph van de gemeenschap Famille de Saint-Joseph, de familie van Sint-Jozef. Een gemeenschap opgericht in de jaren 90 door een Belgische priester, Joseph-Marie Verlinde. En ik stel voor dat we ook vandaag opnieuw starten met een mooi lied tot Sint-Jozef en dan het vervolg van het gesprek samen beluisteren. En welkom terug, beste luisteraars. We luisteren vandaag naar een gesprek met priester en broeder Dominique Joseph van de familie van Sint-Jozef in Frankrijk. Frère Dominique is, zoals hij al aanhaalde, bijbeldeskundige, maar onderwijst ook Josephologie. En daarom vraag ik hem of hij ons, naast de plaats die Sint-Jozef heeft in de innerlijke genezing, nog iets anders wil meegeven over Sint-Jozef.
Il y a deux expressions qui sont, à mon avis, suffisantes pour tout dire de Saint-Joseph. La plus récente est celle du pape François, qui nous dit que Joseph est un cœur de père. C'est magnifique comme expression, un cœur de père. Et effectivement, c'est la paternité qui résume le mieux Saint Joseph. Mais Jean-Paul II est plus fin théologien, et il faut dire il était philosophe. Lui, dans l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, qui est parue en 1989, définissait Saint Joseph comme le gardien du Rédempteur, Redemptoris Custos. Ce qui spécifie plus exactement quel père est Saint Joseph, c'est un père en tant qu'il est serviteur. C'est la paternité vécue comme un service. C'est-à-dire que toute la vie, tout l'être de Saint Joseph est consacré au Seigneur Jésus. Il a renoncé à tout. Il n'a même pas, par exemple, rêvé d'être un grand homme. Qui ne rêve pas d'accomplir quelque chose dans sa vie? Saint Joseph s'est dépouillé de tout pour être disponible à ce que Dieu voudrait. Et en voulant se faire exclusivement le serviteur de Dieu, eh bien, il a reçu autorité sur Dieu lui-même, en particulier sur le Verbe incarné. Donc, cette manière de voir la paternité comme un service est en soi déjà, je trouve, une réconciliation et une guérison. Parce qu'on nous martèle, et nul n'échappe à la société dans laquelle il vit, on nous martèle des mots qui sont devenus péjoratifs comme le patriarcat, comme l'obéissance, comme la loi, et on les présente comme des empêchements à notre liberté. Alors que c'est le contraire. Le Père, c'est celui qui donne la parole qui structure, qui met en liberté et qui donne les moyens d'accomplir sa propre vocation.
Dus hij zegt, er zijn twee uitdrukkingen die volgens mij voldoende zijn om alles over Sint-Joseph te zeggen. En één ding daarvan is recent door Paus Franciscus gezegd, namelijk dat Sint-Joseph het hart van een vader heeft. Het is een prachtige uitdrukking, het hart van een vader. Het vaderschap definieert Sint-Josef dus het beste. Paus Johannes Paulus II, die een zeer verfijnde theoloog en ook filosoof was, definieerde Sint-Josef in zijn apostolische exhortatie Redemptoris Custos als de bewaarder, de bewaker van de verlosser, de beschermer van de verlosser. Dit verfijnt wat voor vader Sint-Joseph is. Namelijk een vader in de mate dat hij ook dienaar is. Hij beleeft het vaderschap als een dienstwerk. Heel het leven en wezen van Sint-Joseph is toegewijd aan Jezus. Hij heeft alles verloochend. Hij heeft er zelfs niet van gedroomd om iets bijzonders te doen of te zijn in zijn leven. Hij heeft zich van alles ontdaan om volledig beschikbaar te zijn voor wat God van hem verlangde. En omdat hij alleen maar Gods dienaar wenste te zijn, heeft hij het gezag ontvangen over God zelf, namelijk over het vlees geworden woord. Het vaderschap zien als een dienstwerk is in zichzelf al een verzoening en een genezing. Omdat men ons op verschillende manieren slaat in deze tijd met woorden die negatief zijn geworden, zoals het patriarchaat, de gehoorzaamheid en de wet, die men nu voorstelt als beperkingen van onze vrijheid, terwijl zij het tegenovergestelde zijn. De Vader is Hij die het woord geeft dat structuur brengt. Het woord dat in vrijheid stelt. En diegene die de middelen geeft aan zijn kind om zijn eigen roeping te volgen.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans le livre du Deutéronome, où Dieu est face à la révolte des Hébreux qui sont là, errés dans le désert, et ils ne connaissent pas, enfin, c'est autour de l'épisode du veau d'or, vous voyez, de l'idolâtrie. Et Dieu essaye de leur faire comprendre que c'est lui qui les guide, c'est lui qui les libère. Et pour se faire comprendre, il dit: je suis celui qui ressemble à ton père. Souviens-toi comme il te portait sur son épaule, eh bien de la même manière, moi je te porte sur mon épaule. Et voyez, là on est vraiment dans l'humilité extrême de la paternité de Dieu, qui ne parle jamais en référence à lui-même, qui commence par dire « je ressemble à ton papa ». Et il dit ça aussi à Jésus. Et en Jésus, et il nous dit à tous: je suis celui qui ressemble à Saint Joseph, le papa de Jésus. Et ensuite, si on suivait ce fil rouge, et je vous en fais la grâce parce que j'ai déjà été trop long, on verrait comment tout au long de l'Ancien Testament, Saint Joseph attend d'être reconnu comme père. Ce n'est jamais une paternité qui s'impose, ça n'est jamais un diktat qui nous oriente et qui nous contraint, mais c'est au contraire une attente silencieuse, discrète, où le bon Dieu regarde grandir son peuple dans sa recherche de liberté, dans sa recherche de Dieu, de vérité, de justice, et qui semble dire « Mais quand est-ce qu'ils vont découvrir que je suis leur père? Quand est-ce qu'ils vont me faire la joie de m'appeler père ?» Et c'est Jésus, évidemment, qui ultimement répond à cette attente de Dieu lorsqu'il dit à ses disciples « Quand vous priez, dites « Notre Père, il attend que ça ». C'est la seule chose qui peut le rendre vraiment heureux, c'est qu'enfin on se reconnaisse comme ses enfants et qu'on lui dise avec gratitude « Notre Père ».
Er is een passage waar ik veel van houd in het boek Deuteronomium en waarbij het volk in opstand komt tegen God. Het is ook de passage van het gouden kalf. En God probeert hen te doen begrijpen dat hij het is die hen leidt en wil bevrijden. En hij zegt, ik ben degene die lijkt op je vader. Herinner je hoe hij je op zijn schouder droeg? Zo draag ik je ook op mijn schouder. En daar zien we de extreme nederigheid van het vaderschap van God. Hij refereert nooit naar zichzelf, maar hij zegt, ik lijk op je papa. En dat zegt hij ook tegen Jezus. En door Jezus zegt hij het tot ons allen. Ik ben hij die lijkt op Sint-Jozef, de vader van Jezus. En als we deze rode draad volgen, doorheen het Oude Testament, zien we hoe Sint-Jozef erop wacht dat we hem erkennen als vader. Het is nooit een vaderschap dat zich opdringt, een dictaat dat ons wil oriënteren of beperken. Maar het is integendeel een stil en discreet afwachten, waarbij de Heer zijn volk ziet groeien in zijn zoektocht naar God en de waarheid, en zich daarbij afvraagt, wanneer gaan ze ontdekken dat ik hun vader ben? Wanneer gaan ze me de vreugde schenken van mij vader te noemen? En Jezus beantwoordt natuurlijk uiteindelijk die verwachting van God wanneer hij aan zijn discipelen leert om te bidden met de woorden Onze Vader. God wacht enkel daarop. Dat alleen maakt hem gelukkig. Namelijk dat we hem als onze vader erkennen en hem zo noemen. Dan vraag ik het volgende aan Frère Dominique Joseph. U spreekt over het vaderschap in crisis in deze tijd. Is het vaderschap in grotere crisis dan het moederschap?
Alors, je parlais de la paternité au sens générique, au sens où elle vient de Dieu, et qui donc se révèle dans la paternité aussi bien que dans la maternité, et dans leur complémentarité, c'est entendu. Oui. Cependant, il faut reconnaître que depuis les années 70, c'est le papa qui est visé particulièrement, et par là, la mère est visée elle aussi. Par exemple, il y avait une chanson dans les années 80, vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas né sans doute, où on disait « elle a fait un bébé toute seule ». Or ça, c'est un mensonge anthropologique. Aucune femme ne peut faire un bébé toute seule. Elle a besoin d'une alliance, elle a besoin de l'engagement d'un homme à ses côtés, la Vierge Marie y compris. Saint Joseph n'a pas contracté un mariage de convenance pour satisfaire à la bienséance de la société de l'époque, c'est que Marie, pour s'engager dans son fiat, a besoin d'un homme qui dit « je m'engage à tes côtés et je m'engage à ton service ». Si elle n'avait pas été mariée, l'archange n'aurait pas pu lui proposer la maternité divine. Donc c'est autant la paternité que la maternité qui sont attaquées, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, en invitant les gens à se redéfinir eux-mêmes, par exemple en leur donnant l'illusion qu'ils peuvent choisir leur propre sexe, tout simplement, eh bien, on les blesse dans le rapport de la parole de laquelle on se reçoit. Je prends cet exemple-là, qui est très récent, mais qui est extrêmement violent et douloureux, de ces gens qui sont malheureux au point et qui souffrent au point de vouloir subir une intervention chirurgicale pour faire changer leur sexe. Et souvent, ils changent de nom, évidemment. Et en changeant de nom, c'est-à-dire en se nommant soi-même, on rejette l'idée même de la paternité. Quand on s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Jean, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce n'est pas la question. C'est que c'est le nom que le père a donné. C'est le père qui reconnaît l'enfant et qui le situe dans la société, qui le situe dans les rapports humains. Donc c'est la première et la plus violente, la plus profonde sans doute des blessures dont nous souffrons aujourd'hui à différents degrés. J'ai cité un exemple extrême, mais à différents degrés, toutes les familles vivent cette souffrance-là. Et vous voyez qu'elle touche ensuite, par là même, elle touche la maternité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant qui est défini comme un projet? Ça veut dire qu'on a réussi à convaincre les femmes qu'elles n'étaient que des mères porteuses. On a réussi à défigurer la maternité au point de faire croire qu'un enfant, c'était le projet d'une personne, que c'était le désir, le fruit du désir d'une personne. Non, pas du tout. Or ça, eh bien, ça ne peut s'inculquer dans le cœur des femmes, malheureusement, que si on a d'abord détruit l'image du père et détruit la conviction que le couple, homme et femme, a besoin d'être constitué pour accueillir l'enfant.
Ik heb gesproken over het vaderschap zoals we dat van God ontvangen en dat zich zowel in de vader als in de moeder openbaart en natuurlijk in hun complementariteit. Maar we kunnen wel stellen dat sinds de jaren 70 de vader vooral geviseerd wordt en daarom wordt ook de moeder geviseerd. Zo was er in de jaren 80 een lied waarin men zong: zij heeft zelf een baby gemaakt. Maar dat is een antropologische leugen. Een vrouw kan nooit alleen een baby maken. Ze heeft nood aan een verbond, aan het engagement van een man aan haar zijde. De Maagd Maria inbegrepen. Sint Jozef is niet met haar getrouwd voor de vorm, omdat het nu eenmaal zo hoorde in die tijd. Maar omdat Maria, om haar fiat waar te maken, nood had aan een man die zich aan haar zijde engageerde en zich over haar ontfermde. Als ze niet zou trouwen, zou de engel haar niet hebben kunnen vragen de moeder van God te worden. Zowel het vader als het moederschap worden in deze tijd aangevallen. Maar doordat men de mensen vandaag uitnodigt om zichzelf te herdefiniëren en hen zo bijvoorbeeld de illusie te geven dat ze zelfs hun eigen geslacht kunnen kiezen, worden de mensen gekwetst in de verhouding tot het woord waarin men zichzelf ontvangt. Zo'n moeilijke zin, maar ik neem dit als voorbeeld omdat het zeer eigentijds is, maar zeer gewelddadig en droevig. Een voorbeeld van mensen die diep ongelukkig zijn en in die mate lijden dat ze een chirurgische ingreep willen ondergaan om van geslacht te veranderen en vaak daarbij natuurlijk ook hun naam veranderen. En door van naam te veranderen en zichzelf een naam te geven, verwerpt men ook het vaderschap zelf. Of we nu Pierre, Paul, Jacques of Jean heten en of we dat nu leuk vinden of niet, is niet echt de vraag. Het gaat erom dat het de naam is die we van onze vader krijgen. De vader erkent zijn kind en brengt het in de samenleving binnen en in de menselijke relaties. Het is dus de eerste en meest diepe wonde waaraan we in deze tijden lijden. En in verschillende maten natuurlijk. Want wat ik net zei is een extreem voorbeeld, maar toch lijden we er allemaal in bepaalde mate onder. En deze vaderwonde raakt ook het moederschap aan. Dat zien we wanneer het kind gezien wordt als een project. Men is erin geslaagd om vrouwen te overtuigen dat ze slechts draagmoeders zijn. Men heeft het moederschap misvormd door te doen geloven dat een kind het project of de vrucht van het verlangen is van één persoon, maar dat is het kind natuurlijk helemaal niet. En dit heeft zich helaas in de harten van de vrouwen kunnen vastzetten, doordat men het beeld van de vader heeft vernietigd en ook de overtuiging heeft vernietigd dat het koppel, man en vrouw, nodig is om een kind te kunnen ontvangen.
En we gaan er weer even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. Een lied tot Sint Jozef, natuurlijk.
Je vous salue, Joseph, pour que la grâce divine a comblé
le Seigneur a reposé dans vos bras. Et grandis sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse,
Radio María. Elke dag telt.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Elke Dag Telt, waar we vandaag luisteren naar een tweede en laatste deel van een bijzonder gesprek met Frère Dominique Joseph van de familie van Sint-Jozef. En dit in het bijzonder tijdens deze maand maart, deze maand toegewijd aan de heilige Jozef.
U sprak in het begin, Frère Dominique Joseph, over de eenheid van de drie harten van Jezus, Maria en Jozef. Als ik het goed begrijp, zijn zij het medicijn?
La guérison passe par le choix de Marie pour par l'accueil de Marie pour mère et le choix de Joseph pour père. C'est comme ça qu'on va guérir les familles, donc qu'on va guérir la société, mais plus largement qu'on va guérir l'Église. Le pape François le dit dans la lettre du mois de décembre, l'Église aussi est en crise de paternité. La paternité des prêtres et des évêques est aussi un lieu douloureux aujourd'hui, un lieu à réinvestir et à redécouvrir. Et en s'approchant ainsi de Marie et de Joseph, en se situant comme leur enfant dans la vie de la grâce aussi bien que dans la vie terrestre, eh bien, on peut découvrir l'amour ardent qui les unit au Sacré-Cœur. Le centre de tout, la source de tout, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et en voyant comment Marie aime Jésus, en demandant à Marie de mettre dans notre cœur l'amour pour Jésus, en voyant comment Joseph aime Jésus, en demandant à Joseph de mettre dans notre cœur son amour pour Jésus, alors on rentre au paradis littéralement. Parce que qu'est-ce que c'est que le paradis, sinon de vivre dans le brasier ardent qu'est le cœur de Jésus. Donc oui, la guérison passe par là, et on l'appelle guérison, on peut l'appeler glorification, on peut l'appeler sanctification, peu importe le vocabulaire ou le chemin qu'on envisage, mais c'est en étant uni au cœur de Jésus que l'homme trouve sa béatitude.
De genezing komt voort uit het ontvangen van Maria als moeder en de keuze van Sint-Jozef als vader. Zo kunnen de families en de samenleving genezen, maar zeker ook de kerk. Paus Franciscus heeft het gezegd in de brief van december dat de kerk ook in een vaderschapscrisis is. Een crisis van het vaderschap van de priesters en de bisschoppen. Het vaderschap is daar ook een pijnlijke plaats waarin er opnieuw geïnvesteerd moet worden en die opnieuw ontdekt moet worden. Door zo te naderen tot Maria en Jozef en ons als kind van hen op te stellen, zowel in het geestelijke als in het aardse leven, kunnen we de vurige liefde ontdekken die hen verbindt met het heilig hart van Jezus, die het centrum en de bron van alles is. Door te zien hoe vurig Maria en Jozef hem beminnen en door hen te vragen om in ons hart diezelfde liefde voor Jezus te brengen, komen we letterlijk het paradijs binnen. Want wat is het paradijs anders dan te leven in de brandende vuurhaard van liefde die het hart van Jezus is? Dus ja, de innerlijke genezing gaat langs deze weg. En we noemen het genezing, maar kunnen het ook verheerlijking of heiliging noemen. De woordkeuze doet er hier niet toe, maar het gaat om de vereniging met het hart van Jezus. Daarin vindt de mens zijn gelukzaligheid. Ik vraag dan nog het volgende. Frère Dominique Joseph, het feit dat jullie gedurende aanbidding doen, komt ook voort vanuit deze overtuiging dat het ware geluk ligt in de vereniging met het hart van Jezus.
Tout à fait. Tout à fait. On ne peut aimer Jésus sans le connaître. On ne peut connaître une personne sans passer du temps auprès d'elle. Donc, être présent chaque jour à l'adoration, c'est déjà entretenir l'amitié. Mais le fond de notre mouvement, c'est un souci de consoler le cœur de Jésus parce qu'il est méprisé. Et donc, là, on peut penser aux apparitions à Paray-le-Monial, hein, à Sainte Marguerite Marie à la Coque, évidemment, qui a beaucoup de place aussi dans l'histoire de notre communauté. Et donc, nous sommes là pour dire à Jésus, au nom des âmes qui le méprisent, qui se détournent de lui, qui le blessent, y compris nous-mêmes qui sommes pécheurs, pour lui dire notre pauvre amour est tout à lui. Nos pauvres vies sont tout à lui. C'est un ministère d'adoration et de consolation. Et ce ministère-là a une vertu transformatrice. C'est-à-dire que au plus on entre dans la contemplation, au plus on s'enracine dans la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Parce qu'on parle souvent du silence de Saint Joseph, mais Marie n'est guère bavarde. L'Évangile rapporte quelques phrases d'elle, pas plus, et ce qu'on dit surtout, c'est qu'elle gardait les choses en silence dans son cœur. C'est surtout ça qu'on nous dit de la Sainte Vierge. Et donc, on a ce mouvement de silence qui est un mouvement de vie contemplative et qui témoigne que l'humilité de Joseph et de Marie, cette humilité-là s'enracine dans la contemplation de Dieu en tant qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est transcendant, qu'il est grand, qu'il est le tout autre, qu'il est beau, etc. On conçoit souvent l'humilité comme une manière de se regarder soi-même, peut-être même de se mépriser en disant oh, « je ne suis que ça, je ne suis pas grand-chose ». Je crois que le fond de l'humilité, c'est de dire « Dieu est grand ». Et Marie et Joseph, dans leur contemplation de Jésus, étaient en admiration pour la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la petitesse de l'enfant qu'ils portaient dans leurs bras. Et c'est là que leur humilité grandit et se structure. Et alors, l'adoration eucharistique nous permet de rentrer dans cette humilité-là. Or, cette humilité est essentielle pour la vie spirituelle parce que c'est ce qui rend Dieu puissant dans nos vies. Souvent, on est dans des situations d'échec. Par exemple, en ce moment que nous sommes en carême, nous avons tous une liste de péchés que nous reconnaissons d'année en année, des comportements que nous voudrions voir disparaître et qui s'accrochent, hein, qui sont là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque de laisser la puissance de Dieu, de laisser le souffle de l'Esprit purifié. Et il le ferait si nous étions davantage humbles, c'est-à-dire si nous renoncions à notre autonomie. Or, pour renoncer à son autonomie, il faut choisir Dieu pour maître. Pour choisir Dieu pour maître, il faut reconnaître qu'il est Père. Pour reconnaître qu'il est Père, il faut reconnaître qu'il est Dieu, etc. Vous raccrochez tous les wagons de tout ce qu'on a dit et vous vous retrouvez à genoux devant le Saint-Sacrement.
Inderdaad, we kunnen Jezus niet beminnen zonder hem te kennen. We moeten tijd doorbrengen bij iemand om iemand te leren kennen. Elke dag naar de aanbidding komen, is die vriendschap onderhouden. Maar aan de basis van onze beweging ligt ook de bezorgdheid om het hart van Jezus te kunnen troosten, omdat het beledigd en verdriet aangedaan wordt. We kunnen daarbij denken aan de verschijningen in Paray-le-Monial aan de heilige Marguerite Maria la Coque, die ook een plaats hebben in de geschiedenis van onze gemeenschap. We zijn er om tegen Jezus te zeggen, in de naam van alle zielen die hem misprijzen, pijn doen en zich van hem afkeren, zoals we dat zelf natuurlijk ook doen aangezien we allen zondaars zijn, om tot Jezus te zeggen dat we van hem houden en dat onze armzalige liefde en onze levens volledig voor hem zijn. Dit is een ministère, zoals ze in het Frans zeggen, een apostolaat van aanbidding en troost. En dit apostolaat heeft een transformatorische deugd. Dit betekent hoe meer we binnentreden in de contemplatie, des te meer we ons wortelen in het leven van de heilige familie. We spreken vaak over de zwijgzaamheid, de stilte van Sint-Jozef, maar ook Maria praat heel weinig. Het evangelie geeft ons enkele uitspraken van haar, maar er wordt vooral gezegd hoe zij de woorden in haar hart bewaart. Onze beweging is er dus een van stilte, een contemplatieve beweging, die ervan getuigt dat de nederigheid van Jozef en Maria geworteld is in de contemplatie van God als God, God die groot is, de geheel andere, goede en transcendente. Men denkt vaak dat nederigheid een manier is om naar zichzelf te kijken, of zichzelf zelfs minachten door te zeggen: ik stel niet veel voor. Maar ik denk dat het fundament van de nederigheid net ligt in de bewondering van de grootheid van God, die zich manifesteert in het kleine kindje dat Jozef en Maria in hun armen dragen. De eucharistische aanbidding kan ons dus helpen binnentreden in deze nederigheid die essentieel is voor het geestelijk leven, omdat ze God machtig maakt in ons leven. Momenteel bevinden we ons in de vasten en we hebben allemaal een lijst van gebreken waar we al jaren proberen aan te werken, die we proberen te overwinnen, maar waarin we telkens opnieuw falen. Bepaalde gedragingen die we zouden willen veranderen, maar die heel hardnekkig zijn en die we al lang meedragen. Wat ontbreekt er ons? Het ontbreekt ons aan de kracht en de adem van de Heilige Geest om ons te laten zuiveren. Ze kunnen dit maar doen in de mate dat we nederig zijn. In de mate dat we onze autonomie verloochenen, en om dat te doen, moeten we God als onze meester kiezen. En om dat te kunnen, moeten we Hem als Vader erkennen. En als je zo alles wat we besproken hebben met elkaar verbindt, kom je uiteindelijk terecht geknield aan de voeten van het Heilig Sacrament.
Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar dat gesprek met Frère Dominique Joseph van de familie van Sint-Jozef. Indien u graag de vorige uitzending wil herbeluisteren met het begin van dat langere interview, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Elke dag telt. Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. En we gaan natuurlijk nog een Bijbelvers voor vandaag kiezen. We hebben hier het mandje en we vragen de Heilige Geest om ons een woordje te geven voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier het kaartje. Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ook vandaag een woordje uit het boek Psalmen, Psalm 23, vers 6. Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.